Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Sébastien Royer. C'est le deuxième volet de notre série consacrée à la géopolitique des travailleurs. Nous parlions hier des travailleurs étrangers auxquels la Hongrie fait appel pour faire tourner son industrie de la batterie électrique, alors que Viktor Orban assurait que l'économie hongroise n'avait pas besoin d'immigrer. Nous évoquerons demain la diaspora des Philippines. L'État a tout mis en place pour fabriquer des domestiques modèles, comme elles disent. Aujourd'hui, de Madagascar au Kenya, les sous-traitants de l'intelligence artificielle.
La plupart du temps, je travaille pour des intelligences artificielles. Ça, c'est pour des sites de rencontres. Ils veulent savoir comment les gens perçoivent cette image une fois qu'elle est mise en ligne sur leur site. Donc, ils me demandent si en voyant cette photo, je dirais que cet homme est intelligent. Je pense pas, non. Qui mettrait ce genre de photo sur un site de rencontres?
En ce moment, il y a beaucoup de start-up qui s'implantent au Kenya.
Nous devions regarder tous ces contenus, au moins 250 chaque jour. Et tous comportaient des images dérangeantes. C'était des contenus traumatisants.
Je travaille vraiment toute la journée, presque 8 heures par jour. Donc du lundi au samedi, 8 semaines. Pour gagner 200 euros.
8 semaines de travail pour gagner 200 euros. Or, sans eux, l'intelligence artificielle serait tout simplement stupide. Elle n'aurait pas la vue circumspective de l'escalier en colimaçon, elle n'aurait pas le flair du chien ni l'oreille de la taupe. Comme disait Balzac dans un autre contexte, elle ne verrait, ne sentirait et n'entendrait rien. Ils sont des dizaines de milliers de travailleurs invisibles et précaires pour alimenter chaque jour les intelligences artificielles. C'est qu'il vaut mieux les avoir en photo qu'à table, les ChatGPT ou Midjourney entre beaucoup d'autres, avides qu'ils sont des milliards de données dont ils ont besoin pour fonctionner. Ce n'est qu'une fois leur repas d'exemple avalé, digéré, qu'ils pourront générer des textes et des images entre deux spasmes gastriques. En réalité, ce travail-là ne s'arrête jamais et pour optimiser les coûts, comme on dit, ces tâches sont déléguées pour la plupart à des travailleurs de pays pauvres, pays anglophones pour les entreprises américaines, francophones pour les sociétés françaises. Les États concernés s'y prêtent assez volontiers, qui voient dans cette nouvelle filière un moyen de diversifier leurs économies. Quant à ceux qu'on appelle désormais les damnés du clic, ils espèrent souvent faire de cet emploi sous-payé un tremplin vers un avenir meilleur. Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Assia Wirth.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sociologie à l'ENS Paris-Saclay. Votre thèse porte sur les dynamiques de pouvoir qui structurent les systèmes de production des technologies d'analyse faciale. Et votre terrain concerne surtout les pays anglophones, principalement le Kenya, dont on va parler aujourd'hui avec Maxime Cornet. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes doctorant à l'Institut Polytechnique de Paris. Vous travaillez au sein du groupe de recherche DeepLab. DeepLab, c'est le sigle de Digital Platform Labor. Et vous avez mené une enquête sur les travailleurs précaires qui se cachent derrière l'intelligence artificielle, enquête qui vous a conduit avec votre collègue Clément Leludec de Paris à Antananarivo à Madagascar. Alors pour qu'on comprenne bien qui sont ces travailleurs de l'intelligence artificielle, il faut définir leur mission davantage que ce que je l'ai fait en introduction, puisque pour s'améliorer tous les jours, l'intelligence artificielle a besoin, en tout cas pour l'instant, d'hommes et de femmes. Mais pour faire quoi exactement ? Maxime Cornet.
Les tâches pour entraîner l'IA, elles sont aussi diverses que les modèles d'IA. C'est-à-dire qu'en fonction du modèle que vous cherchez à entraîner, si vous voulez entraîner quelque chose qui reconnaît les chats ou les chiens sur une image, vous allez avoir besoin de donner à l'ordinateur énormément d'exemples de ce que représente l'image et de classe qu'il y a sur l'image. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de pointer exactement à la machine où se situe un chat ou un chien sur l'image.
C'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous, quand on nous demande, avant d'accéder à un site, de cocher les cases où se trouve un vélo, un avion ou que sais-je.
Exactement, c'est exactement le même modèle qu'à la CATCHA, c'est-à-dire que pour entraîner une voiture intelligente, vous allez avoir besoin de reconnaître les feux rouges dans des photographies, et pour ça, il faut qu'un humain les pointe, parce que l'ordinateur, a priori, n'a pas conscience de ce qu'est un feu rouge, ou de ce que c'est un chat, ou de ce que c'est un chien. Ces tâches, elles sont beaucoup plus diverses que ça, parce que l'intelligence artificielle est beaucoup plus diverse que ça. C'est-à-dire que pour entraîner un modèle de reconnaissance automatique de factures, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent ça actuellement, de traiter automatiquement vos factures quand vous êtes une entreprise. Et pour ça, il faut que le modèle sache où se situent les cases qui décrivent la TVA, où se situent les cases qui décrivent les différentes taxes. Mmh. Et pour ça, il faut que des humains détour à la main, donc encadre à la main où se situent les différents champs sur cette facture.
C'est aussi de cette façon, Asia Wirth, que ChatGPT est en train, a priori, d'acquérir de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, de l'emmagasiner. Comme ça, c'est grâce à ces humains, ces hommes et ces femmes qui sont derrière leurs ordinateurs.
Oui, totalement. Effectivement, pour fonctionner, donc il faut beaucoup de données, comme vient de le dire Maxime, mais il faut absolument qu'il y ait des personnes en fait qui ajoutent un espèce de sous-texte pour décrire ces données pour que les systèmes algorithmiques les comprennent. Et aussi, ce qui est peut-être important de préciser, c'est qu'à aucun moment, en fait, ces systèmes vont réellement apprendre, comme nous on l'entend, à comprendre ces données. C'est vraiment l'association entre les données et ces annotations qui sont toujours essentielles pour les systèmes. Par exemple, je travaille sur la reconnaissance faciale, entre autres, et les systèmes algorithmiques à aucun moment comprennent réellement ce qu'est un visage par exemple, si un visage est intelligent ou comme l'exemple qui était donné en intro. C'est vraiment juste l'association d'une annotation avec les données qui va aider les systèmes à fonctionner.
Et est-ce que c'était une évidence pour les entreprises de l'intelligence artificielle que ces tâches-là soient à la fois externalisées, c'est-à-dire ça se fait pas en interne dans ces entreprises, mais aussi délocalisées, hors du pays où se retrouve le siège de l'entreprise, Maxime Cornet?
Alors oui, pour une raison assez simple, qui est que vous avez besoin de volumes de données qui sont assez massifs et qu'un temps horaire d'ingénieur de chez Google, ça coûte extrêmement cher. Et même un salaire américain, en règle générale, pour ces entreprises-là, ça coûte très cher. Et donc, pour des tâches qu'eux, ils considèrent comme à plus faible valeur ajoutée, où il y a besoin de compétences moins marquées, ils vont les externaliser vers des pays où le coût du travail qualifié est moins cher.
Asia Wirth, est-ce que ça fait partie de ces tâches dont on dit, comme le ménage, la plonge ou la sécurité, que personne ne veut les faire aujourd'hui dans les pays occidentaux?
Oui, totalement. D'ailleurs, j'ai pu parler à quelques personnes qui étaient, qui ont dû effectuer ce travail d'annotation dans des conditions tout à fait différentes en France, notamment. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'était que c'était inhumain de demander à une personne d'effectuer ce genre de travail pendant des heures d'affilée, plus de 2 heures. La personne considérait que c'était inhumain de demander ça à ses équipes. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, ça s'était intégré dans d'autres missions et il y avait certaines personnes qui en faisaient, par exemple, 1 heure par jour, mais ils croyaient pas au fait que c'était possible d'en faire plus d'une ou 2 heures max par jour.
Alors que les annotateurs, comme on dit, travaillent une dizaine d'heures par jour souvent. Les pays anglophones sous-traitent la plupart du temps dans des pays anglophones, donc Inde, Philippines, Sri Lanka, Kenya, et vous avez travaillé sur tous ces pays, Asia Wirth. La France, elle, vise des pays principalement africains, francophones, dont Madagascar, terrain que vous connaissez bien, Maxime Cornet, et sous-traite de ces tâches. Alors on va commencer par les entreprises basées dans ces pays qui s'occupent de ces tâches-là. Est-ce que ce sont des entreprises, Maxime Cornet, qui ont été créées spécifiquement dans le cadre d'une nouvelle économie de l'intelligence artificielle ou qui travaillaient déjà avant, qui existaient déjà avant sur d'autres missions?
Alors, il faut bien comprendre que ce marché-là, il s'insère dans un secteur qui est préexistant à l'IA, c'est-à-dire que c'est un secteur à Madagascar qui existe depuis les années 90 au moins, et ça s'insère dans tout un tas de tâches qui ont lien avec la digitalisation en règle générale. Donc à la base, ces entreprises-là, elles faisaient principalement du call center.
Et des centres d'appel, en appelant dans les pays, partout, notamment en France.
Ou même de l'appel entrant, hein, c'est-à-dire du support. Quand vous avez un problème avec votre ligne de téléphone, vous appelez quelqu'un et des fois ça part là-bas. Donc ils visaient principalement du call center et aussi de la numérisation, et notamment de la numérisation d'ouvrages. Donc le premier essor des livres numériques s'est fait en passant par ce biais-là, c'est-à-dire qu'on envoyait des scans à Madagascar, des scans d'ouvrages, et des gens là-bas tapaient l'image qui apparaissait sur leur écran et ensuite le renvoyer en France pour la numérisation.
Surtout pour des entreprises privées ou aussi pour des grandes médiathèques publiques, des institutions?
Aussi les institutions publiques, ouais. Oui, on retrouve pas mal d'institutions publiques en fait dans ces chaînes-là. Ce qui se comprend assez naturellement, hein, parce qu'il y a un énorme enjeu en France autour de la numérisation, des actes administratifs et aussi des ouvrages.
Donc elles existaient, ces entreprises, dans les années 90, et ensuite comment leur travail a évolué jusqu'à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui ?
Elles ont progressivement intégré tout un tas de secteurs qui ont trait à cet enjeu de la numérisation. C'est-à-dire qu'elles font encore du call center, elles font encore de la numérisation d'ouvrages, elles font encore de la saisie de données en tout genre, mais elles ont en plus capté ces parts de marché qui ont trait à la notation de données pour l'IA, qui ne représentent généralement pas le cœur de leur activité, sauf pour quelques boîtes très précises. Et donc, en fait, ce secteur survit un peu sur l'essor du web, en fait. Et ils font le web occidental, en règle générale, repose sur ces travailleurs-là, pour grande partie.
Et allez-y, je vous en prie.
Parce qu'ils font de la modération aussi, beaucoup.
C'est le même cas de figure à peu près pour les pays anglophones que vous avez étudiés à Siavirt. C'est-à-dire il y a des grosses entreprises de sous-traitance qui délèguent à des entreprises un peu plus petites dans ces pays où elles sont elles-mêmes souvent tentaculaires.
Oui, totalement. Je pense qu'on a tous les deux observé le même genre de dynamique. Pareil, j'ai rencontré des personnes qui d'ailleurs avaient travaillé dans des call centers et en fait, en suivant l'industrie présente dans la région où ils étaient, se sont mis à, par exemple, la notation de données. Et effectivement, du coup, pour rejoindre le point sur l'histoire de la numérisation, une grosse industrie du coup que Maxime vient de mentionner, c'est la modération de contenu en fait pour les réseaux sociaux, qui était dans beaucoup de cas une des premières raisons d'être de beaucoup de grosses boîtes de sous-traitance dont j'ai entendu parler. Et en fait, la modération, du coup, c'est quand il y a du contenu soit illégal, soit choquant, soit tout ce qui n'a pas lieu, tout ce que les plateformes considèrent
ne pas avoir à diffuser.
C'est ça. En fait, c'est pas automatique le fait qu'elles disparaissent. C'est des personnes qui vont vérifier point par point est-ce que ce contenu devrait être là ou pas. Et du coup, ça mène à des personnes qui doivent pendant des heures et des heures et des heures regarder et être confronté à du contenu particulièrement choquant, ce qui mène pour beaucoup à des états de détresse assez conséquents, comme on peut l'imaginer.
Et d'ailleurs, au Kenya que vous avez étudié, des employés exposés à ces contenus violents, ils étaient 183, je crois. Est-ce qu'ils étaient tous kenyans? Je ne sais pas. Mais d'anciens employés de la société Sama et Meta, donc Facebook, la maison mère de Facebook, ont poursuivi Meta pour ne pas avoir proposé d'aide psychologique pour regarder comme ça des journées entières des vidéos violentes. Sama, c'est l'ex Sama Source, je crois que c'est une société californienne, si je dis pas de bêtises, Maxime Cornet, a quitté cela, où Facebook sous-traite le traitement de leurs données. Dans les pays francophones, par quelles entreprises, en général, tout ça passe? On parle beaucoup de téléperformance, par exemple.
Alors, à ma connaissance, téléperformance s'est positionné sur le marché de l'IA et de la modération assez tard. Par rapport à ses concurrents, ils font surtout du call center, pour le coup. Mais effectivement, on retrouve des géants de l'externalisation de services, en règle générale, parce que c'est comme ça que ces entreprises se définissent, qui ont des centres de production partout, en fait. C'est-à-dire qu'énormément des entreprises qu'on retrouve à Madagascar ont des centres de production aussi dans des pays d'Asie, dans d'autres pays d'Afrique, parfois, et donc et proposent l'ensemble de ces services-là, c'est-à-dire de la modération, du call center et de la numérisation, comme on a déjà dit.
Téléperformance, d'ailleurs, entre parenthèses, une étude d'Oxfam qui a été publiée aujourd'hui, dit que le PDG de cette société est celui dont l'écart de salaire avec ses employés est le plus élevé de tout le CAC 40. Il gagne 1453 fois le salaire moyen de ses salariés en 2022.
Je démarque les contours de la grenade avec précision. Je fais le tour du fruit, puis j'ajoute une légende. Il y a deux catégories, les grenades et les fleurs. Il faut identifier seulement les fruits mûrs. Les fruits verts, on ne les touche pas. Si on n'apprend pas à la machine à les reconnaître, elle cueillera tous les fruits, qu'ils soient mûrs ou non, et ce sera un problème.
Alors, lui est basé en Inde. C'est un annotateur de données qui explique donc comment il détoure une image pour aider l'intelligence artificielle à repérer les grenades mûres, et c'est TF1 qu'il avait rencontré il y a quelques semaines. On a l'impression, Maxime Cornet, d'un modèle d'intelligence artificielle très ciblé, alors qu'on pouvait penser que ceux qui travaillent aujourd'hui sur les modèles d'intelligence artificielle travaillent pour des choses très généralistes comme ChatGPT. Là, on entend, c'est ciblé, c'est pour des entreprises. C'est pour qui exactement que ce modèle est fabriqué?
Alors, le modèle en question pour la grenade, je ne sais pas. Oui, en règle générale, la plupart de ces modèles qui sont produits pour l'industrie sont des modèles extrêmement ciblés, en effet. C'est-à-dire que le champ médiatique est occupé en ce moment par les large language models, comme on les appelle, donc ChatGPT, les modèles de langage large en français. Le champ médiatique est vraiment occupé par ces modèles-là, mais en fait, c'est une proportion minime de ce qui est produit en règle générale par ces entreprises-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes une entreprise qui fabrique des boulons, un chatbot, ça ne vous intéresse pas a priori. Ce qui vous intéresse, c'est un modèle qui va reconnaître sur votre chaîne de montage les boulons qui sont déformés pour ne pas les insérer dans des voitures ou dans ce que vous essayez de produire en sortie. Et donc pour ça, évidemment, vous allez entraîner un modèle spécifique pour reconnaître précisément les boulons, ce que vous appelez vous un boulon déformé, et à partir de quel taux de déformation vous considérez que votre boulon est bon à mettre à la poubelle, et à partir de quel taux de déformation est-ce que vous considérez qu'il peut être intégré à la pièce. Et ça, c'est vous qui le décidez en fonction de votre chaîne de production et de votre cahier des charges. Et personne ne peut le faire à votre place, et c'est pour ça que ces modèles sont extrêmement spécifiques, en fait. C'est-à-dire qu'en définissant votre cahier des charges, vous allez en quelque sorte définir la manière dont le modèle va voir le monde. Et donc un modèle qui reconnaît des boulons mal formés, en fonction de vos besoins extrêmement précis, et même parfois même de la disposition spatiale de votre chaîne de montage à vous, c'est de ce dont vous avez besoin in fine si vous êtes un industriel.
Donc ça veut dire quoi? Que ces travailleurs, qu'ils soient kényans, malgaches ou autres, qui travaillent à détourer les grenades trop mûres ou les boulons déformés, ils ont été formés en amont par les entreprises pour dire voilà ce que c'est qu'une grenade trop mûre ou un boulon déformé, ou c'est-à-dire comment ça marche cette formation de ces travailleurs à Siavirt?
Oui, alors en fait, ils sont formés effectivement généralement au début de leur intégration à une entreprise, mais surtout en fait, ils sont formés au début de chaque projet d'annotation. Et c'est là où du coup, en fait, d'une certaine manière, ils deviennent vraiment spécialistes de ce jeu de données-là spécifiquement. Parce que en fait, généralement, l'organisation classique du travail, c'est qu'une fois que les annotateurs annotatrices ont intégré l'entreprise, en fait, tous ces jeux de données vont former des projets, donc comme des projets dans n'importe quelle autre entreprise. Et au début de chaque du lancement de chaque projet, en fait, il y a un manager qui va former ses équipes. Et d'ailleurs, généralement, la formation va donner lieu à l'intégration ou non à un projet, parce que du coup, si les personnes, les annotateurs, annotatrices sont considérés comme pas assez performants et pas assez précis sur cette tâche-là précisément, ils peuvent généralement éloigner du projet. Et ensuite, du coup, donc c'est à la suite de cette formation qui vise à former sur les instructions très précises de l'entreprise, enfin du client, pour ce jeu de données-là, que les personnes du coup vont effectuer le travail et justement par exemple reconnaître ou non les boulons mal formés.
Alors il y a certains prérequis indispensables en ce qui concerne Madagascar par exemple. Tous les employés qui travaillent pour les entreprises françaises sous-traitantes, enfin celles qui sous-traitent à ces entreprises malgaches, parlent français. C'est une condition sine qua non, Maxime Cornet?
Oui, ça fait partie des enjeux du recrutement de ces annotateurs. Hein. Il n'y a pas des besoins de maîtriser la langue parlée de manière aussi, avec des enjeux aussi importants pour le call, par exemple, pour les appels.
Que pour les appels,
oui. Mais il faut comprendre au moins le français écrit, être capable de s'exprimer et de communiquer avec les donneurs d'ordre. Parce que c'est eux qui vont faire la formation et c'est eux qui vont faire passer le cahier des charges. Et pour ça, il y a besoin d'une compréhension et de capacité linguistique assez développée.
Donc il y a une sorte de première sélection sociale qui s'opère à ce moment-là. Ce ne sont pas les plus démunis, que ce soit financièrement ou en niveau d'études, qui sont embauchés dans ces entreprises.
Ouais.
Et alors, comment ça se passe au Kenya? Parce que, par exemple, au Kenya, chez Sama, par exemple, on dit qu'une grande part des employés de Sama au Kenya ont grandi dans le grand bidonville de Kibera, au sud de Nairobi. Et on dit, voilà, regardez, on fait, nous, une sorte d'action sociale en embauchant ces personnes à travailler pour l'intelligence artificielle à Siavirt.
Alors, donc, je n'ai pas parlé à tous les employés ou ex-employés de Sama. Moi, les personnes, en fait, à qui j'ai parlé sont maintenant des personnes, généralement, qui se sont mises à leur propre compte. Mais ce que j'ai observé, en tout cas du groupe de personnes à qui j'ai pu parler, c'est que en tout cas leur profil ne remplissait pas du tout l'image, ne correspondait pas à l'image de personnes peu qualifiées ou justement pas diplômées par exemple, parce que du coup moi la plupart des personnes à qui j'ai pu parler sont ont l'équivalent au moins d'un baccalauréat, mais dans la plupart des cas, en fait, ont fait au moins une licence l'équivalent d'une licence universitaire, voire d'un master, et notamment d'ailleurs dans des études scientifiques, donc de sciences dures entre guillemets, et notamment d'ingénieurs. En fait, il y a beaucoup d'ingénieurs veulent notamment rejoindre l'industrie du machine learning, de l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, ils trouvent pas forcément de métier, de rôle qui correspond réellement à leur qualification. Et du coup, se retrouvent en fait en suivant l'idée de je veux travailler avec des données. Ils découvrent l'industrie généralement après leurs études ou vers la fin de leurs études, cette industrie d'annotation de données. Et rejoignent l'industrie par manque d'options.
Il y avait un projet retranscription audio. C'était pour Total Spring, je crois. Parce que tous les textes, ça parlait de Total Spring, les services clients et tout ça. On retranscrit la conversation entre le service client et les clients qui se plaignent ou qui a des remarques à faire. J'ai fait en total 812 tâches. Donc 812 tâches, ça m'a pris une semaine, journée et soir, pour à peu près moins de 40 euros, je dirais. Oui, vers les 30 euros pour faire ça.
Une jeune femme qui a fait de longues études avant de travailler aujourd'hui pour les plateformes. Et elle est à Madagascar, elle a été interrogée par France Télévisions. Maxime Cornet, vous écriviez dans un article avec Clément Leludec que ce travail capte des travailleurs qui pourraient faire autre chose, qui pourraient mettre leurs compétences davantage au service du bien commun. Parce que ce sont en général des personnes bien formées dans leur pays.
Oui, ce qu'il faut prendre en compte quand on parle de ce genre de ce genre de personnes, de ce secteur surtout, c'est que, en fait, ces gens-là évoluent dans un marché du travail qui est assez compliqué. Et notamment à Madagascar, le marché du travail a énormément de mal à intégrer ces jeunes diplômés, en fait. Et ça pose énormément de questions en termes de développement pour le pays, le fait que une partie des gens qui sortent des universités tous les ans sont captés par un secteur qui est entièrement tourné vers la production pour des plateformes numériques occidentales et qui ont assez peu de choses à voir avec une production locale. C'est-à-dire que Google ne produit pas des algorithmes pour Madagascar, Google produit des algorithmes pour les États-Unis et pour l'Europe principalement. Et ces gens-là sont insérés dans des chaînes de production qui sont entièrement tournées vers l'extérieur.
Et la valeur ajoutée, elle se fait plus tard. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure, le produit, entre guillemets, exporté par Madagascar prendra de la valeur, mais une fois sorti du territoire.
Tout à fait, tout à fait. La majorité de la valeur est captée par des acteurs intermédiaires et par les GAFAM en bout de chaîne, et certainement pas par les annotateurs sur place.
Est-ce que ça génère quand même des recettes fiscales pour Madagascar ?
Très peu, parce que la plupart de ces entreprises-là sont en fait sous un statut qu'on appelle le statut de zone franche à Madagascar, où c'est un statut de zone franche un peu particulier, parce qu'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exemption au droit du travail, par exemple, mais il y a des exemptions de taxes. Et la plupart des revenus engrangés par ces entreprises ne sont pas taxés, en fait, à Madagascar.
Parce que donc cette industrie profite d'un régime spécifique à Madagascar, les zones franches qui a été instituée en 89, je crois, pour le secteur textile, et qui est donc des exemptions d'impôts, des très faibles taux d'imposition qui concernent aujourd'hui aussi le secteur du numérique. Dans les pays anglophones que vous avez étudiés à Siavirt, quelles politiques ont contribué à développer ce métier d'annotateur ? Parce que ce ne sont pas que des entreprises occidentales qui imposent à un pays ou à des travailleurs de travailler dans des conditions très difficiles et pour des salaires de misère. Ce sont aussi des pays qui encouragent manifestement cette production-là, ce travail-là.
Oui, totalement. Dans le cas du Kenya, par exemple, le pays a mené il y a des années quand même des politiques très favorables à justement le développement d'une économie numérique. Et c'est pour ça que du coup, il y a beaucoup de grosses entreprises de sous-traitance qui se sont d'ailleurs, enfin, on parle de Sama, mais c'est pas la seule, qui s'est implantée là, pardon, très rapidement, et du coup, qui en fait, de fait, maintenant, sont les plus développés. Le secteur du digital, en règle générale, est extrêmement développé comparé à d'autres pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a des tendances de travail, enfin de travailleurs travailleuses qui d'autres pays, notamment par exemple en Ouganda, en Afrique du Sud, en Éthiopie, qui viennent en fait travailler dans ces entreprises-là au Kenya.
Avec une histoire certes récente, mais un petit peu différente de celle qu'on a évoquée à Madagascar, puisqu'au Kenya, paraît-il, ce sont surtout d'anciennes ONG ou des organisations qui faisaient de l'humanitaire qui se sont transformées en entreprises du numérique au Kenya. Alors c'est peut-être un raccourci, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors c'est vrai qu'il y a... J'ai entendu parler de plusieurs structures en fait qui reprennent le modèle un peu, ou en tout cas le langage de l'humanitaire, de l'aide au développement. Du coup, dans potentiellement des langages quand même très paternalistes, voire néocoloniaux, et qui vont justement prôner l'éducation numérique et le développement de ce type de rôle. Qui va un peu l'associer au développement de économique du pays. Et du coup, en fait, ils vont généralement se dire en soutien. Ils visent à développer donc les carrières des personnes. Et du coup, de temps en temps, vont vraiment se positionner en coach professionnel, peut-être on pourrait dire. Et en fait, quand on entend ce qui se passe en fait à travers ces formations-là, c'est vraiment de la mise au travail pour former des personnes à uniquement devenir annotateur, annotatrice.
Avec encore une fois une coopération de l'État kényan qui introduit ou qui veut introduire l'apprentissage des bases du codage informatique dès l'école primaire, par exemple, le Kenya qui s'enorgueillit d'être la Silicon Savannah, la Silicon Valley sur le continent africain, on en avait d'ailleurs parlé dans Culture Monde. Maxime Cornet, ce terme de néocolonialisme est aussi présent dans certains de vos articles ou travaux, notamment sur cette question des compétences linguistiques qui sont aujourd'hui exigées auprès de ces travailleurs de Madagascar qui tous parlent français. Or, comment parlent-ils français? Et ça profite bien aujourd'hui aux pays donneurs d'ordre, entre guillemets, c'est parce que la France les y a formés il y a longtemps.
Bien sûr, mais ça s'inscrit dans une longue histoire coloniale et dans une tradition d'externalisation vers les colonies d'un certain type de travail qu'on juge déqualifié. Voilà. Après, il faut aussi comprendre que leur maîtrise du français s'inscrit aussi dans des stratégies individuelles à l'échelle locale. C'est-à-dire que eux, ils parlent français parce qu'ils font partie d'une certaine classe urbaine là-bas qui a parlé français au cours de sa scolarité et qui a été formée au français dans diverses institutions et notamment les alliances françaises. Mais ça fait aussi partie de leur stratégie de migration. C'est-à-dire que cet aspect un peu néocolonial, il se retrouve aussi dans cette situation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des parcours et qui nous décrivent des parcours où ils ont des projets de migration qui passent par l'université et notamment aller faire des études en Europe. Et pour ça, ils ont besoin de maîtriser la langue et donc ils investissent beaucoup dans cette maîtrise des compétences linguistiques. Et quand ces parcours migratoires se retrouvent empêchés pour des raisons qu'on connaît, hein, c'est-à-dire la difficulté d'obtenir un visa, etc., etc., ils sont intégrés à ce secteur de l'externalisation. Et donc, on a des entreprises qui sont majoritairement détenues par des Européens, qui capitalisent sur des compétences qui ont été apprises et acquises pour être insérées dans ces parcours migratoires.
Est-ce qu'on peut éventuellement quand même parler davantage pour ces salariés que d'être embauchés pour certains en CDI, qui leur ouvrent les droits à la retraite ou à l'assurance maladie? Est-ce qu'ils ont un statut envié à Madagascar?
Et c'est compliqué à dire parce que c'est des gens qui... Alors oui, évidemment, toutes ces notions-là sont importantes et il ne faut pas minimiser le fait d'avoir un CDI à Madagascar parce que la majorité de l'économie est informelle, parce que c'est quand même des gens qui ont des compétences et qui ont été à l'université, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde à Madagascar. Par contre, pour des gens qui finalement représentent une classe moyenne urbaine, éduquée, ce travail-là n'est pas si valorisé que ça. C'est-à-dire que généralement, c'est des gens qui sont jeunes et ça représente pour eux une première entrée sur un marché du travail qui est extrêmement compliqué à intégrer. Et les salaires ne sont pas si élevés que ça au regard du travail qui est demandé et au regard de la classe sociale de ces gens-là. Et donc, Les deux sont en balance, c'est-à-dire qu'il y a cette tension entre, effectivement, ça représente une certaine forme de stabilité, et en même temps, on pourrait demander beaucoup plus aux entreprises qui sous-traitent en termes de rémunération, en termes de protection et de droits sociaux.
Alors, pas de syndicat, pour ainsi dire. Alors, sauf au Kenya, à Siavirt, où un syndicat a été créé l'année dernière par d'anciens employés ou ex-employés de Sama et de Majorel, donc deux sous-traitantes géants du numérique. À quoi ressemble ce syndicat? Est-ce qu'il a déjà eu à défendre certains cas, à se battre pour certains droits? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce syndicat qui est donc tout nouveau, un premier syndicat de modérateurs de contenu?
Moi, j'ai pas pu rencontrer des personnes qui soit en faisaient partie, en tout cas qui ont dit en faire partie. J'ai vraiment juste pu suivre ça un peu de loin. Ce qui est clair, par contre, c'est que ce syndicat donc a réussi à se créer, mais c'était vraiment à la suite de nombreuses batailles, notamment en fait pour faire justement reconnaître à Meta, entre autres, donc qui était un des gros clients entre guillemets de Sama, que en fait donc c'est une cour kényane qui a justement reconnu que Meta devrait plutôt être vu comme un employé de ces personnes-là plutôt que un client de Sama, et que Sama du coup devrait plutôt être compris comme un type de manager, enfin en fait des managers pour Meta de ces personnes-là, et non vraiment comme la société employeuse en fait des travailleurs et des travailleuses, parce que justement on parle plus ou moins d'emploi de salariés déguisés, quoi, parce que ces personnes en fait travaillaient pratiquement exclusivement pour Meta, fournissaient une charge de travail très conséquente pour Meta, mais n'étaient pas reconnues parce que Meta, du coup, donc leur défense était que ils n'étaient pas implantés dans la région parce que justement ils pouvaient, enfin ils sous-traitaient donc via Sama, et du coup ils pouvaient pas être tenus responsables ni des conditions de travail et de vie, par exemple, de vie, oui, parce que du coup donc ils sont pas payés, ils sont payés très très peu, mais aussi pas tenu responsable de l'impact sur la santé mentale. Justement, quand on parlait de modération, tout ce contenu est extrêmement choquant. En fait, tous les problèmes liés en lien à la santé mentale des annotateurs annotatrices, Meta ne se disait pas responsable de
leur santé mentale. Est-ce qu'eux, ils savent qu'ils travaillent pour Meta, c'est-à-dire ces travailleurs de la donnée ou travailleuses, est-ce qu'ils et elles savent pour quel grand groupe et éventuellement quel GAFAM ils travaillent?
Alors pour Meta, j'ai l'impression que ça faisait vraiment aucun doute. Généralement, Sama, de ce que j'ai compris, et comme la plupart des sous-traitants, ont vraiment une politique d'anonymisation des projets. Donc techniquement, les annotateurs, annotatrices ne savent pas qui est le client final. Cela dit, quand on parle par exemple de Meta, quand on parle d'autres GAFAM ou autres groupes technologiques, généralement c'est des produits, des services qui sont très visibles, que les annotateurs, annotatrices connaissent en fait. Et la plupart du coup sont évidemment très connectés, connaissent les derniers produits technologiques. La plupart sont aussi en fait des fans de technologie, quoi. La plupart sont, enfin pas la plupart, mais beaucoup sont ingénieurs. Et de fait, en fait, j'ai entendu parler de groupes technologiques où en fait les personnes savent très bien pour qui ils travaillent, même sans qu'on leur dise directement.
Alors beaucoup travaillent dans des entreprises. On en a longuement parlé. D'autres ont développé leur propre entreprise, leur propre réseau de clients. C'est là-dessus que vous travaillez d'ailleurs à Siavirt. C'est aussi le cas à Madagascar. Est-ce que là-dessus, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est-à-dire, qui sont ceux qui, au bout de quelques semaines, mois, voire années, se disent « moi, je travaille en entreprise, je ne veux plus. En revanche, je vais fonder ma propre entreprise qui va ensuite qui sera celle auquel ces grands groupes français vont sous-traiter l'annotation de la donnée ?» Maxime Cornet.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a la volonté chez ces gens-là. Ils ont parfaitement conscience de leur position dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires entre eux et le client donneur d'ordre qui, à chaque fois, prend une part de la valeur dégagée. Et l'objectif pour la plupart de ces gens, c'est d'arriver à remonter cette chaîne de valeur en traitant directement avec les clients ou en traitant avec un intermédiaire un peu plus haut dans la chaîne. pour capter une plus grande part de la valeur produite. Ils nous le disent de manière très claire en entretien, il y en a qui ont le sentiment d'être exploités précisément parce qu'ils savent qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires sur cette chaîne-là qui profitent finalement de leur travail. C'est-à-dire que c'est eux qui produisent la valeur ajoutée, notamment en traitant la donnée. Et il y a des intermédiaires qui prennent leur part tout au long de la chaîne.
Donc ils s'en sortent mieux, ceux qui créent leur propre entreprise, Assia Wirth en général ?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Pour la plupart, il y en a en fait, généralement, moi j'ai parlé à pas mal de personnes qui pourraient être plutôt considérées comme auto-entrepreneuses aujourd'hui. Et du coup, leur salaire, en fait, leur rémunération sont déjà en fait directement négociées avec leurs clients. Et du coup, en fait, il n'y a pas de pourcentage qui est ponctionné dessus par exemple, des grosses boîtes de sous-traitance. Après, ça, il y a quand même une première barre d'entrée qui est de trouver les premiers clients et justement pouvoir, en fait, à partir de ça, acquérir de nouveaux clients, être mieux recommandé, etc. Pouvoir constituer un portfolio en fait qui va montrer le travail effectué et du coup rassurer, arriver à capter de nouveaux clients. Mais une fois que un certain le livret de clients a été établi. Clairement, je pense que les rémunérations suivent et aussi en fait c'est des conditions de travail. Du coup, donc les bénéfices de l'auto-entrepreneuriat qui sont du coup plus flexibles. Les personnes peuvent gérer leur temps comme ils veulent, etc.
Alors pour conclure bientôt cette première partie, une question bête, Maxime Cornet, mais comment font ces entreprises ou ces travailleurs individuels quand il y a des coupures de courant? Encore au mois de mars, les habitants de Tamatave, la deuxième ville et capitale économique du pays, sont restés plongés dans le noir pendant plus de 24 heures. Et on sait que les tensions sur le réseau de distribution de la Girama, la compagnie nationale d'électricité, sont très habituelles. Alors comment font ces entreprises qui ne vivent que pour ça, que par ça?
Ils ont des générateurs de courant, comme dans la plupart des pays du Sud qui connaissent des délestages à répétition.
Et du coup, ils l'accaparent d'une certaine façon, cette électricité
Ils n'accaparent pas forcément l'électricité, parce que c'est des générateurs à diesel. Hein, donc, ils ont un générateur ou plusieurs générateurs dans la cour, et puis ils achètent du diesel pour mettre dedans. Et voilà. Mais il y a les mêmes tensions sur le réseau Internet, ce qui pose beaucoup plus de problèmes, par contre, parce que vous ne pouvez pas avoir un générateur Internet. De fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, il y a des pans entiers de la journée où, effectivement... même pour ces boîtes-là, qui généralement souscrivent à plusieurs opérateurs pour essayer de jongler un peu entre les différentes fibres, pour réussir à avoir de l'Internet constant sur toute la journée, il y a effectivement des plages horaires où il n'y a pas de production parce qu'il n'y a pas de connexion, tout simplement.
Et Madagascar est l'un des premiers pays d'Afrique de l'Est à avoir été raccordé à la fibre, ce qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce pays a été choisi par des grandes sociétés pour la sous-traitance de ce travail autour de l'intelligence artificielle. Si je vous posais aussi cette question-là, c'est parce qu'il me semble que pendant la pandémie de Covid, alors c'est différent des coupures d'électricité, mais la plupart des pays ont interdit ou fortement limité le travail en entreprise. Or là, comment font les travailleurs dans ces cas-là? Est-ce que, comme ici en France, tous ceux qui ont pu... Alors bien sûr, ça ne concerne pas tous les métiers, et contrairement à ce qu'on a pu croire en entendant en boucle ce genre de choses, le télétravail, tous les métiers ne peuvent pas se télétravailler, mais là en l'occurrence, comment ça s'est passé et à Madagascar et au Kenya, que vous connaissez tous les deux?
À Madagascar, ça a été assez... Enfin, le confinement a été assez marqué et effectivement, on a vu des phénomènes de mise en télétravail des annotateurs, en règle générale.
Ils ont tous un ordinateur chez eux ?
Ils se sont fait livrer des ordinateurs, d'accord, en fait. C'est-à-dire que les entreprises ont mobilisé des transporteurs pour aller récupérer les ordinateurs dans les centres de production et les distribuer au sein des ordinateurs, à chaque annotateur. Ils leur ont aussi donné des clés 4G et des connexions quand il n'y en avait pas chez eux.
People that come together.
On est tous fait d'étoiles, we all are made of stars de Moby. C'est une chanson qui date déjà de 2002. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre géopolitique des travailleurs. Aujourd'hui, celles et ceux qui alimentent les modèles d'intelligence artificielle avec nos invités Maxime Cornet et Assia Wirth. On a parlé de ces travailleurs de Madagascar et du Kenya auxquels les entreprises sous-traitent l'annotation de données. D'autres plateformes dites de micro-travail privilégient, quant à elles, les Américains.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le premier truc que je me suis acheté quand je suis reparti de zéro, c'était un ordi portable. C'est indispensable, ça. Parce que c'est ça qui me rapporte du fric. J'ai gagné plus de $30,000 en répondant à des sondages. Tiens, en voilà un. Opinion sur le monde. Pour 70 centimes, j'ai réussi à le choper. Dieu est tolérant, tout à fait d'accord. Dieu est réceptif, ouais. Dieu pardonne, ouais. Dieu est en colère, non, il l'est pas assez. En fait, il nous demande de choisir entre religion et science.
Un micro-travailleur américain qui cumule quelques centimes par-ci, un dollar par-là en répondant à des questionnaires sur l'état du monde. C'est un extrait du documentaire Travail à la demande, produit par Arte en 2021. Cet homme travaille comme Turker, du nom d'Amazon Mechanical Turk, la première plateforme d'annotation de données lancée en 2006, et dont le principe est que des entreprises d'intelligence artificielle ou des groupes de recherche mettent en ligne sur les plateformes des propositions de travail très simples que se disputent ensuite des dizaines de milliers de Turkers. Bonjour Théo Marquis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur postdoctoral à Sciences Po en économie. Quelles sont les conditions requises pour décrocher ces petits boulots d'annotation de données ?
Alors du coup, cela dépend du type de travail. Souvent, quand c'est vraiment de l'annotation, il n'y a aucune restriction. Peu importe la localisation du travailleur, il peut le faire. Après, certaines entreprises qui postent ces tâches sur la plateforme peuvent mettre des conditions, par exemple un nombre de tâches réalisées, un pourcentage de succès dans les tâches réalisées pour avoir des travailleurs de meilleure qualité, et aussi ils peuvent potentiellement discriminer sur la localisation du travailleur.
Notamment parce que souvent ces travailleurs sont payés en dollars, me semble-t-il, sauf quand Amazon vous envoie une carte cadeau pour vous rémunérer, mais sinon c'est plutôt des dollars. Donc plutôt
Absolument.
Donc plutôt les pays où ensuite ces Turkers pourront utiliser leurs dollars. Géographiquement, justement, comment sont répartis ces Turkers à travers le monde ?
Alors, c'est en majorité des travailleurs américains. Il y a eu plusieurs études là-dessus. Amazon ne communique pas sur ces chiffres, mais les études démographiques sur la plateforme donnent entre 60 et 80% de travailleurs américains. Et après, le reste de ces 40 à 20% sont en majorité des travailleurs indiens.
Notamment pour les enquêtes comme celle auxquelles faisait référence ce micro-travailleur américain qu'on a entendu, des sondages, des enquêtes, il faut, d'après ces entreprises ou d'après Amazon, des références culturelles américaines. Ils vont chercher vraiment des Américains pour répondre à ces enquêtes d'opinion. Alors je ne sais pas si ce sont des laboratoires d'opinion ou des laboratoires sociologiques universitaires qui est-ce qui a recours à ces Turkers, mais comment se passe ce choix-là justement ?
Oui, c'est un peu les deux, et c'est vrai que quand on veut extrapoler avec une étude des résultats sur la population générale, en tout cas américaine, qui est souvent celle qui est la plus prisée, parce que c'est aussi la population qui rapporte pour toutes les entreprises, donc par exemple Facebook, Amazon, c'est bien la population américaine qui rapporte le plus d'argent, donc savoir comment ils réagiraient à l'introduction d'un produit ou quelle est leur opinion sur tel sujet est bien plus important et a bien plus de valeur pour ces entreprises ou groupes de recherche aussi qui postent ces enquêtes sur la plateforme.
Des enquêtes qui se doivent normalement, ça fait partie du travail d'avoir des enquêtes représentatives. Alors pour le commerce, je ne sais pas trop les enquêtes commerciales, mais tout ce qui concerne les enquêtes qui se veulent être, comme disait ce micro-travailleur américain qu'on a entendu sur l'état du monde, son opinion sur le monde, est-ce que ces micro-travailleurs sont représentatifs justement de la société américaine ?
Alors, pas vraiment. En règle générale, ils sont plus jeunes que la population moyenne. Ils sont aussi moins qualifiés, vu que c'est des petits jobs, alors qu'ils sont très flexibles. C'est souvent des gens qui ont soit pas accès au marché du travail conventionnel ou qui ont besoin énormément de flexibilité. Mais vu que les revenus perçus sur la plateforme, par exemple le revenu médian pour les Américains est d'environ 3 $, ce qui est bien en dessous du salaire minimum fédéral de 7,25 $, c'est souvent des gens qui sont déjà assez pauvres et peu qualifiés, plutôt jeunes du coup. Donc et pas très représentatifs de la population générale.
Et est-ce qu'ils ont une forme de statut ? Est-ce qu'il y a un contrat de travail d'une certaine manière ?
Pas, et vous pouvez, vous, moi, n'importe quel auditeur, essayer de vous inscrire dès aujourd'hui sur Amazon Mechanical Turk. Ça vous demande juste un compte Amazon si vous avez déjà, et juste un clic pour confirmer que vous voulez bien vous inscrire et donner quelques informations, juste votre adresse et votre pays de localisation. Vous recevrez un mail dans la journée ou le lendemain, et vous serez accepté ou non en fonction des besoins de la plateforme. Par exemple, ils n'acceptent plus de travailleurs français sur la plateforme, mais ça demande que ça, et il n'y a aucun statut particulier, aucune protection en tout cas pour les gens qui réalisent ces tâches sur la plateforme.
Vous avez dit qu'ils n'acceptaient plus les travailleurs français. Pourquoi ?
Oui, c'est simplement parce qu'il n'y a pas, assez de... Enfin, ils ne communiquent pas là-dessus, mais ça devrait être parce qu'il n'y a plus besoin de travailleurs, enfin, en tout cas en ce moment, de nouveaux travailleurs français sur la plateforme, que ce soit pour répondre à des enquêtes. Il y a peu d'entreprises françaises en fait, qui vont sur Amazon pour justement ces enquêtes-là. Et pour les tâches d'annotation... Les travailleurs indiens, en tout cas, sont plus acceptent plus de tâches et travaillent plus sur la plateforme.
Avec des rémunérations, encore une fois, très basses, que les entreprises, me semble-t-il, ne sont même pas obligées de payer. Elles ne sont même pas tenues contractuellement de rémunérer pour une tâche qui a été faite. Elles peuvent décider arbitrairement, au dernier moment, de finalement ne rien verser.
Bah, c'est bien ces entreprises qui décident de la qualité du travail rendu. Et il y a 2 ans, AI Insight qui avait justement posté plus de 70 000 tâches sur Amazon Mechanical Turk. Et il semblerait que beaucoup de travailleurs se sont plaints de ne pas avoir, que leurs tâches n'avaient pas été validées. Donc c'était des petites tâches pour entraîner justement un modèle d'IA et que Amazon ne s'en est pas mêlé. Et oui, ça reste de la décision du requester, donc l'entreprise qui poste sur la plateforme. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des initiatives faites par les Turkers pour noter les entreprises qui postaient ces tâches sur la plateforme pour pouvoir éviter ces requesters, ces entreprises qui abusaient de leur pouvoir pour ne pas rémunérer les travailleurs.
Donc ils n'ont pas de syndicat ni de moyens de se défendre, ces Turkers. En revanche, ils peuvent se parler sur des forums, et c'est là qu'en général le danger guette ou pas pour ces grandes entreprises, mais ils peuvent noter, comme vous le disiez, à leur tour, les entreprises qui proposent des tâches, et ça ce n'est pas Amazon qui l'a mis en place, ce sont bien eux, les Turkers, qui ont, alors sans aller jusqu'à dire qu'ils ont arrosé l'arroseur, mais au moins ont-ils trouvé cette réponse-là en mettant un score de fiabilité aux entreprises, en surtout disant si cette entreprise-là les a mal payées, etc. Et ils utilisent leurs compétences informatiques qu'ils ont développées eux-mêmes au bout de semaines et mois de cette activité pour créer des sortes de modèles où ils peuvent créer ces notes-là. Peut-être un mot, ces plateformes, enfin ces entreprises, quand elles dirigent une tâche vers quelqu'un ou quand un Turker s'attribue une tâche, qu'il soit indien ou américain, il est payé de la même façon par l'entreprise ? Le même salaire ?
Absolument.
Ou le même salaire ? La même somme, en tout cas.
Absolument. Oui, la réalisation est payée pareil, mais c'est juste que toutes les tâches ne sont pas accessibles à tous les travailleurs. C'est pour ça qu'on a cette différence en salaire médian entre les travailleurs américains et indiens, qui va du simple au double. Le salaire médian pour un travailleur américain sur la plateforme est de 3 $ et d'1,4 $ pour un travailleur indien.
Merci beaucoup Théo Marquis d'avoir été avec nous, chercheur postdoctoral à Sciences Po en économie. Je me tourne vers nos deux invités, Maxime Cornet et Assia Wirt, que ce soit pour cette plateforme dont on vient de parler, Amazon, ou celle que vous connaissez mieux qui sous-traite à Madagascar ou au Kenya. Toujours, ces travailleurs sont, comme on dit, invisibilisés, mais est-ce que ça ne participe pas de ce discours qui voudrait nous faire croire, entre guillemets, que l'intelligence artificielle, c'est magique, c'est complètement magique, Assia Wirt?
Oui, totalement. La plupart du temps, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithmes et du coup que des personnes qui développent ces algorithmes. Or, ces algorithmes ont peu de valeur si on ne peut pas justement accéder à des grosses bases de données annotées, comme on l'a évoqué. Et ces bases de données, en fait, n'apparaissent évidemment pas par magie. Il faut vraiment toutes ces industries de travail très laborieux, très intensifs. Et sans ça, en fait, les algorithmes, du coup, n'auraient aucune valeur. Du coup, clairement, en fait, c'est grâce à l'invisibilisation, en fait, du développement de ces bases de données qu'on peut justement être amené à penser qu'un algorithme va effectuer une tâche dans le monde, par exemple, reconnaître un visage comme par magie automatiquement.
Maxime Cornet, en deux mots pour conclure, est-ce que la régulation européenne qu'on nous annonce sur l'intelligence artificielle peut changer quelque chose à ça spécifiquement, le travail qui est derrière cette intelligence artificielle?
Alors il y a une disposition de l'AI Act qui vient d'être votée, qui oblige pour les modèles dits sensibles à donner le nom des sous-traitants. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire à décrire comment le modèle a été entraîné. Mais ça, c'est pas beaucoup plus précis que ça. Et c'est un peu laissé au gré des entreprises le niveau de détail sur la notation et notamment sur les chaînes de sous-traitance. Donc la régulation européenne, oui. Mais à préciser.
Merci beaucoup à tous les deux. Et peut-être que si ChatGPT vous a écouté sur les plateformes de podcast, vous écoutera tout à l'heure, il pourra dire dans quelques temps que les travailleurs du CLIC sont très mal payés, mal considérés et qu'ils existent néanmoins et qu'ils sont là pour faire tourner l'intelligence artificielle. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Maxime Cornet, doctorant à l'Institut Polytechnique de Paris. Assia Wirt, doctorante en sociologie à l'ENS Paris-Saclay. Vous travaillez tous les deux au sein du groupe de recherche DeepLab pour Digital Platform Labor. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous commencez ce matin, Catherine, avec la crainte d'un massacre à grande échelle au Darfour.
Dans la ville d'El Fasher, dans l'ouest du Soudan, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent déjà de la faim et des bombardements. La ville craint le pire, titre le New York Times, après une réunion d'urgence hier du Conseil de sécurité de l'ONU, car cette ville d'El Fasher est désormais assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Ils voudraient faire sauter ce verrou pour la domination de la région tentaculaire du Darfour, écrit le New York Times, ce qui fait craindre des massacres en cas de prise de la ville, ajoute le Financial Times. Le quotidien britannique raconte que des dépliants sont actuellement distribués dans El Fasher pour décrire comment préparer un corps pour les enterrements. La mort est devenue normale, raconte un Soudanais de 37 ans dans les pages du Financial Times. Il travaillait au ministère des Finances avant que la guerre ne bouleverse sa vie il y a un an. La rivalité entre deux généraux, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, alias Emeti, a plongé tout un pays dans l'enfer. 48 millions de Soudanais confrontés au combat, à la famine, aux violences sexuelles et ethniques, rappelle Voice of America, la radio internationale des États-Unis. Nous en avions déjà parlé ici même le mois dernier.
À El Fasher, par exemple, il n'y a ni électricité ni eau courante.
Les habitants dépendent en grande partie des approvisionnements qui arrivent à Dodan, raconte le New York Times. Les pénuries ont fait doubler le prix de la viande et du sucre. Alors, pour tenter de trouver à manger, les habitants déambulent dans les rues d'El Fasher et les bazars en journée avant le couvre-feu nocturne. Les habitants d'El Fasher sont pour la plupart issus de communautés déjà ciblées lors du précédent conflit au Darfour, avec 300 000 personnes tuées il y a une vingtaine d'années par la milice Janjaweed, qui était l'ancêtre des paramilitaires, des forces de soutien rapide à majorité arabe, écrit le Financial Times. El Fasher, qui comptait 500 000 personnes avant la guerre, abrite peut-être désormais 1 million d'habitants, selon Middle East Eye. Au moins 43 personnes y ont été tuées ces dernières semaines, relève le New York Times et le journal canadien Globe and Mail, qui craignent, comme les Soudanais, que ce ne soit qu'un avant-goût des violences à venir. The Sudan Tribune redoute même un génocide à El Fasher. Les enfants au Darfour, entre la famine et la mort, titre la BBC, qui met en avant une femme aux yeux tristes et à la voix calme, ou plutôt épuisée, alors qu'elle récupère sa ration alimentaire dans un camp de réfugiés. Son petit sac n'a pas à être aussi rempli qu'auparavant, se désole la BBC. Trois de ses enfants sont morts de faim et de maladie ces quatre derniers mois. L'aîné avait 3 ans, un autre 2 ans, le dernier était un bébé de 6 mois seulement. Médecins sans frontières, l'une des dernières agences humanitaires encore présentes sur le terrain au Darfour, explique que dans le camp de déplacés de Zamzam au Darfour Nord, faute de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux, un enfant au moins meurt toutes les 2 heures.
Et vous nous parlez, pour finir Catherine, d'un document hautement confidentiel que la BBC s'est procuré.
Pour connaître les dernières heures de Nika Shakarami, une adolescente iranienne de 16 ans, cheveux mi-longs, regard dessiné au col, look un peu rock avec des mitaines en résille, elle avait brûlé un hijab lors d'une manifestation à Téhéran le 20 septembre 2022. Elle avait même été filmée en train de le faire debout sur une benne à ordures quelques jours après la mort de Mahsa Amini. C'était l'un des derniers gestes de cette adolescente iranienne, explique l'enquête de BBC Eye. Nika, peut-être un an avant le mouvement pour Mahsa, pensait déjà souvent aux injustices que le gouvernement nous fait subir. Elle était très courageuse, elle n'avait peur de rien. J'ai toujours eu peur qu'il lui arrive quelque chose, confie sa mère Nasrin Shakarami. Crainte justifiée, souligne la BBC. Car après cette manifestation contre le régime iranien en septembre 2022, Nika Shakarami disparaît. 9 jours plus tard, sa mère la retrouve dans une morgue, le visage tuméfié, les os de ses joues étaient brisées, ses dents arrachées, l'arrière de sa tête frappée si durement qu'il était comme enfoncé. Selon le rapport confidentiel que la BBC a obtenu, et mis des mois d'ailleurs à vérifier, rapport établi par le corps des gardiens de la révolution islamique, Nika Shakarami avait échappé une première fois aux gardiens de la révolution avant d'être arrêtée, embarquée dans un fourgon banalisé, menottée, des chaussettes dans la bouche pour l'empêcher de parler. L'adolescente de 16 ans a également subi une agression sexuelle de la part d'un homme qui s'était assis sur elle pour la maîtriser, ajoute BBC Eye. Nika Shakarami a malgré tout réussi à se débattre. Elle a alors été frappée à mort, son corps jeté près d'une autoroute. Ce crime reste impuni, déplore la BBC. Le régime prétend qu'elle s'est suicidée en sautant d'un immeuble. Malgré cela, ou peut-être à cause de cette répression sanglante, souligne le Washington Post. Des femmes résistent encore à la police des mœurs et au port du voile depuis le lancement au début du mois de l'opération Nour, comme le rapporte l'agence de presse iranienne Ektesad. Nour, c'est lumière en persan, explique Voice of America. Certains soupçonnent, selon le Washington Post, le régime iranien d'utiliser la guerre à Gaza et les craintes d'une guerre régionale comme couverture pour resserrer son emprise sur tout le pays.
Merci beaucoup Catherine Dutu.